Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bienvenue dans Alors, c'est pour bientôt, le podcast entièrement dédié à la PMA et au désir de maternité quand ça ne marche pas comme on se l'imaginait. La PMA, ça peut changer une vie, des vies même. Si beaucoup de femmes et de couples y ont recours pour les aider à devenir parents en stimulant hormones et ovulation, pour certaines, il s'agit de la seule solution. Tout simplement de l'unique alternative permettant de mener une grossesse à son terme et d'arrêter ainsi la transmission d'une maladie génétique de génération en génération. Aujourd'hui, je vous présente Charlotte, trentenaire basée en Bourgogne, en essai bébé, en région parisienne. Dans ce nouvel épisode, mon invité se livre sur son parcours, sur les années de souffrance de sa maman et de sa grand-mère qui ont subi des fausses couches par dizaines et sur un mal que des professionnels de santé ont eu beaucoup de mal justement à diagnostiquer et qu'ils ont enfin identifié. Alors sans plus attendre, partons à la rencontre de Charlotte. Alors bonjour Charlotte, merci d'avoir accepté mon invitation et bienvenue sur le podcast.
Merci Anne-Fleur, bonjour à tous.
Alors tu nous parles d'où aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, je vous parle de Lyon en France, donc à côté de Sens.
Alors, est-ce que tu peux te présenter juste en quelques mots qu'est-ce que tu fais dans la vie avec qui est-ce que tu partages ta vie, si tu la partages avec quelqu'un, et quel âge tu as ?
Donc, j'ai 33 ans, je vais sur mes 34 cette année. Mon conjoint vient d'avoir ses 35 et pour ma part, dans la vie, je suis déléguée pharmaceutique.
Alors tu le sais, l'objectif de Alors c'est pour bientôt le podcast, c'est vraiment de libérer la parole autour de la PMA. Donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui, de ton parcours PMA. Dans quel cadre est-ce que tu as eu recours à la PMA ? Est-ce que c'est un projet solo ? Est-ce que c'est un projet en couple ? Est-ce que c'est autre chose d'ailleurs ? Et si c'est avec quelqu'un, avec qui est-ce que tu t'es lancée là-dedans ?
Alors je suis avec mon conjoint depuis 2008. On a fait notre vie jusqu'à 2015 où on a décidé de se lancer dans l'aventure bébé. Et puis je suis donc tombée enceinte en fin juillet 2015.
Ah oui, donc très rapidement.
Très rapidement, j'ai arrêté la pilule début juin, je suis tombée enceinte fin juillet. Donc ça s'est fait nickel, on était contents. On était sur notre petit nuage jusqu'à faire la première écho à 10 semaines et demie en semaine aménorrhée, où là on m'a annoncé qu'il n'y avait pas d'activité cardiaque depuis à peu près c'était à peu près 7 semaines et demie en semaine aménorrhée. Donc, c'était entre ma 7e et ma 8e semaine. Donc, le fœtus n'avait plus d'activité cardiaque.
Ah, d'accord. Donc, en fait, ils peuvent dater le moment de l'arrêt de la grossesse ou du développement du bébé.
Ouais, exactement. Au vu de la taille du fœtus, etc., ils ont pu donner plus ou moins une date.
D'accord.
Donc, voilà. Je précise juste que au départ, j'ai quand même eu pas mal d'appréhension sur la grossesse parce que j'ai une grand-mère qui a fait une douzaine de fausses couches,
voilà,
dont un mort-né à 8 mois et demi de grossesse, et que j'ai une maman qui a aussi fait beaucoup de fausses couches, qui en a fait 7 ou 8 entre mon frère. Enfin, elle en a fait avant moi et elle en a fait quand même pas mal entre mon frère et moi. Donc, j'appréhendais quand même.
Mais et ça paraît presque trop gros pour être possible. Personne ne l'expliquait ?
Alors, pour ma grand-mère, non. On lui avait donné à l'époque un produit qui s'appelait le Distilben. Ça a fait pas mal de bruit à l'époque, où ce produit était censé, au départ, si je ne me trompe pas, éviter les fausses couches. Donc, elle en a pris et il y a eu des études de fait qui ont montré que ça donnait des malformations génitales aux enfants de ces personnes-là, ça, au niveau génital, pas extérieur, mais plutôt intérieur, problèmes utérins, etc. Je me disais que ma mère pouvait avoir eu des fausses couches et mes tantes également dues à ça.
Ah ouais, tes tantes aussi ont été touchées.
Mes tantes en ont fait, ouais. Peut-être pas autant, mais elles en ont quand même fait. Bon, voilà, j'en avais parlé à mon gynéco, il m'avait juste dit très gentiment, les fausses couches, c'est pas héréditaire.
Bon bah tant mieux.
Oui, selon lui, c'est pas héréditaire, donc c'était pas héréditaire, donc bon, j'appréhendais un peu, mais bon, j'étais contente, ouais. Je me suis dit bon. Ça peut arriver, je me l'étais dit quand même, mais bon. Voilà. Donc, on nous annonce que le fœtus n'a pas d'activité cardiaque. Mmh. Pardon. Donc, gros coup de massue.
Bah oui, j'imagine.
On ne réalise pas trop dès le départ. Puis, j'ai mal vécu ce moment-là parce qu'en plus, c'était un vendredi. Et il m'avait dit que ce n'était pas la peine d'aller à l'hôpital pour faire retirer le fœtus, qu'il n'y aurait personne.
Ah bon ? Non, mais
il fallait que je fasse comme ça jusqu'au lundi. Autant dire que j'ai très mal dormi le vendredi.
Tu m'étonnes.
Rien que de me dire que j'avais un fœtus mort à l'intérieur de moi, c'était quelque chose. Donc, je me suis levée le matin, j'ai dit non, c'est pas possible, il faut que j'aille à l'hôpital, je peux pas rester comme ça.
Ouais.
Ce que j'ai fait, j'ai été pris en charge par des internes et le gynéco de garde, qui ont été très gentils. Ils m'ont donné du Cytotec. Au départ, ils voulaient pas... partir sur un curetage tout de suite parce que bon, le fœtus était petit, même si j'étais à 10 semaines d'aménorrhée, ils préféraient essayer d'abord avec le Cytotec. Donc, pour celles qui connaissent pas, j'imagine que beaucoup savent, mais pour celles qui ne connaissent pas, c'est des comprimés qu'on peut prendre soit par voie orale, soit par voie vaginale, qui va déclencher des contractions pour faire évacuer le fœtus. Donc, ce que j'ai fait.
Donc, c'est assez douloureux aussi, non?
Alors, effectivement, c'est très douloureux. C'est vrai que ça fait des maux de ventre comme des règles douloureuses, très douloureuses. Alors moi qui suis pas habituée, c'est vrai que ça m'a un peu surprise. C'est surtout que j'ai eu beaucoup de tremblements, j'avais très froid. Bon, il y a les nerfs qui lâchent aussi, donc on pleure beaucoup. Enfin, c'est tout un truc, tout un processus jusqu'à ce que le fœtus parte. Bon, par contre, ce qui est top, c'est que tout part d'un coup, quoi.
D'accord.
Donc voilà, le fœtus évacué. Je revois le gynéco qui me refait des échos pour vérifier que tout était bien parti et qu'on puisse se relancer sur une nouvelle grossesse.
Donc du coup, un moment très douloureux, aussi bien physiquement que psychologiquement. Mais toi, comme ton compagnon, d'ailleurs, je sais pas, vous vous tournez assez rapidement vers le futur.
Oui. Tout de suite, on s'est dit que ça pouvait arriver, que j'étais pas la première, je serais pas la dernière. Et
oui, parce que finalement, aussi douloureux que ça soit, perdre un fœtus pendant les premières semaines de la grossesse, c'est malheureusement très fréquent, c'est vrai.
Ouais. Non, on se laissait pas abattre. Sur le coup, je l'ai mal vécu sur le coup. Puis après, ça allait, bizarrement. J'étais plutôt positive pour l'après, donc voilà. On m'a dit que tout était bien, que tout s'était remis dans l'ordre, donc je voyais vraiment tout correctement. Et lui aussi d'ailleurs, hein. Il l'a mal vécu aussi, mais bon, il me soutenait. On était tous les deux plutôt sur l'avenir, en se disant que ça allait venir, ça pouvait arriver. Voilà. Et puis. On a refait une tentative où je suis retombée enceinte en 2016. Je suis retombée enceinte au mois de avril 2016. Donc voilà, je retombe enceinte, je retourne voir mon gynéco. Voilà, rien de particulier.
Ouais, donc là du coup, tu arrives à le voir un petit peu plus tôt cette fois-ci.
J'y suis allée, ouais, à 5 semaines d'aménorrhée, donc vraiment quand j'ai appris que j'étais enceinte, hein. Il a vu un petit poids à l'échographie, il m'a dit, enfin on n'entendait pas de cœur, hein, encore, donc il m'a dit que bon bah on se reverrait trois quatre semaines après, un mois, je crois que c'était un mois après.
Mm-hmm.
Et vu que j'avais perdu l'autre à peu près à cette semaine et demie, je me suis dit je vais aller à l'hôpital, je vais dire que j'ai mal au ventre, je vais aller faire une écho.
Non mais t'as trop raison, hein. Enfin, pour te rassurer, j'aurais fait pareil. Hein.
Voilà, donc c'est ce que j'ai fait, je suis allée à l'hôpital, on m'a fait une petite écho, j'ai vu le cœur battre mais je ne l'ai pas entendu, Et j'étais à 7 semaines plus 3 quand je suis allée à l'hôpital. Okay. Et j'étais accompagnée de ma cousine ce jour-là. Elle m'a dit, c'est bon, on voit le cœur, c'est sûr, il bat, tout va bien. Bon, moi, je ne l'avais pas entendu, ça me stressait un petit peu.
Et comment ça se fait d'ailleurs que tu ne l'avais pas entendu? Est-ce que c'est juste qu'ils n'avaient juste pas allumé tout l'équipement
trop.
Ou comment ça se fait?
Je ne sais pas. Je n'ai jamais eu le fin mot de l'histoire. Je me suis toujours posé cette question, mais...
D'accord.
Je sais pas, on voyait battre à l'écran, mais peut-être qu'ils n'avaient pas mis le son. C'était vraiment, c'était pas moral.
Ouais, mais bon, je veux dire, on te l'a confirmé qu'il battait le cœur. C'est pas juste toi qui disais.
En fait, quand c'est vraiment un contrôle, quand c'est comme ça, je pense qu'ils se prennent pas vraiment la tête à l'hôpital. Ils vérifient, qu'ils voient, et s'ils voient, bon bah c'est bon, tout va bien quoi. Ils ont pas vérifié la taille du fœtus, ils ont pas vérifié tout ça. Hein.
Ouais.
C'était pas un suivi gynécologique et obstétrical, ouais. Donc ils sont partis.
Ouais, c'était rapide quoi.
Ouais, c'était très rapidement pour me rassurer quoi.
Mmh, d'accord.
Et puis donc je suis retournée voir mon gynéco de ville à notre rendez-vous. J'étais à 9 semaines d'aménorrhée et fœtus sans activité cardiaque.
Mmh.
Donc rebelote, il vérifie la taille. Pareil, il me dit que j'ai un fœtus qui est à peu près donc à 7 semaines plus 4. Donc, a priori, le fœtus aurait eu
le lendemain,
plus
quoi.
De battements de cœur le lendemain de l'hôpital. Mmh. Donc, voilà. Donc, il me dit, bon, là, ça commence à faire la deuxième. Ça commence à être un peu embêtant.
C'est exactement au même moment que la première fausse couche, c'est ça, non?
Exactement la même chose. Donc, il me dit, bon, c'est quand même... C'est peut-être un hasard, je ne sais pas. On verra la prochaine, mais... Il m'a dit, en France, voilà, il y a un protocole, c'est on ne fait pas d'examen plus poussé tant qu'il n'y a pas eu troisième fausse couche. Deux coups sur coup, ça peut arriver.
Non, c'est dingue. Bon. Et à ce moment-là, il ne fait pas le rapprochement, il ne se dit pas, tiens, vous ne m'aviez pas parlé de votre grand-mère et de votre mère qui ont fait des fausses couches à répétition.
Pas du tout.
Et elle, est-ce que tu sais justement à quel terme, à quelle date elle perdait les fœtus?
Alors, ma grand-mère, plus ou moins comme moi, 2 mois et demi. Ma mère en a perdu à des dates différentes, dont à 4 mois et demi de grossesse. Il y avait des similitudes, mais pas surtout. Donc, c'était pas au point de s'alarmer. En tout cas, pas pour eux. Donc, bien évidemment... très contraignant pour nous, puis moi je commence un nouveau travail dans lequel je suis encore aujourd'hui en octobre 2016. Donc pour pas mettre en porte-à-faux mon entreprise et moi-même, j'attends un an avant de recommencer, sachant que quand même la deuxième, j'ai plutôt bien vécu le moment où on m'a annoncé qu'il y avait pas d'activité cardiaque, mais je l'ai moins bien vécu sur le long terme derrière.
Ouais.
Ça a été l'inverse de la première.
Ouais. À quoi tu expliques ça?
Je sais pas. En fait, je m'y attendais la deuxième parce que autant la première, je connaissais pas les réactions de mon corps face à une grossesse parce que j'étais jamais tombée enceinte de ma vie. Autant la deuxième, je savais qu'il y avait un problème parce que je sentais que j'avais les seins moins gonflés, qui me faisaient moins mal. J'étais moins fatiguée, moins de problèmes de transit. Aussi, parce que ça, on le dit pas souvent, mais c'est vrai que quand on tombe enceinte, on peut avoir des problèmes de transit qui se ralentit. Et là, ça revenait à la normale. Donc, je me suis dit, bon... Puis, j'avais beau dire à mon entourage, parce que je posais quand même des questions aux femmes qui ont été enceintes autour de moi, est-ce que tu avais les seins qui dégonflaient? Est-ce que tu avais moins mal? Ma mère me disait, avec les hormones, tu as des fluctuations qui font que des fois, ils sont plus douloureux que d'autres. Donc, j'essayais de me rassurer.
Mais c'est vrai.
Ils sont encore tendus, normalement, même s'ils sont moins douloureux. Alors que moi, ils dégonflaient, je le sentais.
D'accord.
Je le sentais. C'est assez particulier, d'ailleurs, à ressentir, mais bon. J'avais l'appréhension et j'allais voir le gynéco et hop, plus d'activité cardiaque. Donc, bon, bref, on recommence en 2017. Donc là, je tombe enceinte en octobre. Donc j'avais repris la pilule l'été, je l'avais arrêtée début septembre et je suis tombée enceinte début octobre. Donc je suis tombée enceinte tout de suite. Donc là, j'annonce à ma grossesse à mon conjoint et à mes parents ensemble. Bon, bien évidemment, personne ne se réjouit. c'est pareil sur les annonces. Au bout d'un moment, on se dit, on va attendre le 3 mois avant de se réjouir. Hein. Donc même ça, c'est pas vécu de la façon qu'on aimerait pour un premier bébé, en fait. On a envie que tout le monde soit content, etc. Mais au final, même nous, on a même du mal à se réjouir d'une nouvelle grossesse, hein, parce qu'on a peur pour de la suite. Donc, on prend ça au jour le jour, cette fois-là. Et puis, vient la fameuse échographie que je fais à 8 semaines d'aménorrhée, cette fois-ci. Et pareil... Non. Ouais, effectivement, mon gynéco m'a quand même donné un rendez-vous plus tôt. Et effectivement, toujours pas d'activité cardiaque, même semaine, toujours pareil. Donc là, il me dit, là, on va faire peut-être des examens plus poussés. Donc, on était à la 3e, donc il peut déclencher le protocole. Donc, je fais une hystérosalpingographie. Pour vérifier comment tout est, vérifier que tout est bien comme il faut, etc. Donc,
une hystérosalpingographie, pour les gens qui ne connaissent pas, donc c'est l'imagerie de tes trompes et tout ton utérus, en fait.
C'est ça. En fait, on nous injecte un produit de contraste tout en nous faisant une radiographie pour vérifier que le liquide passe bien jusqu'aux trompes et pouvoir voir clairement à l'image tout l'utérus et les trompes. Ouais. Donc, comme tout le monde aujourd'hui, je pense, on se renseigne de ce qu'on va nous faire sur Internet.
Ouais.
Donc, j'ai lu des avis, ça fait mal, ça fait pas mal. Pareil, je me renseigne autour de moi. On me dit, ça fait pas mal. Je vais faire mon petit examen et j'ai eu très mal.
Ouais.
J'ai eu très mal parce que, en fait, j'ai la trompe droite de boucher.
Ah.
Donc, rien d'alarmant, ça n'empêche pas l'ovulation, ça n'empêche pas de tomber enceinte, etc. Juste qu'elle est bouchée, ils ont beau pousser avec le produit, parfois ça peut déboucher, moi ça se débouche pas, donc bon, c'est pas très grave.
D'accord.
C'est juste douloureux, ça fait une sensation de brûlure quand ils injectent le produit, et puis on sort un petit peu de douleur comme des règles, mais sinon, c'est plutôt surprenant. Plus qu'autre chose, ça reste faisable. Mmh. Donc, on fait l'hystéro. Après, on me prescrit un cariotype parce que justement, il n'y avait rien de particulier lors du premier examen.
Un cariotype de toi, cariotype pour tout le monde qui ne connaît pas. Donc, c'est une analyse de. On va aller reprendre tous les chromosomes, on va aller mettre les uns à côté des autres et. Et on va vérifier que tout le monde est là, quoi.
C'est une analyse génétique. Donc, il y a eu une prescription pour mon conjoint et une prescription pour moi.
D'accord.
Ils font les deux.
Mmh.
Ça a été une grande expérience aussi, le cariotype, parce que le laboratoire avait perdu mes résultats. Normalement, un cariotype, il faut savoir qu'on a des résultats sous un mois et demi. Moi, ils ont mis 2 mois et demi à me les envoyer.
Waouh, OK.
Donc... j'étais un peu en colère.
Ça se fait comment d'ailleurs ? C'est avec à partir d'une analyse sanguine ou...
Voilà, c'est ça. Une simple prise de sang au laboratoire. Rien d'extraordinaire. Hein.
Ok.
Ouais.
Bien.
On nous prend plusieurs tubes et puis après c'est plus le délai, l'attente qui commence. C'est le début de l'attente.
Ouais.
On vient à retrouver mes résultats. Mon conjoint n'avait rien, on avait déjà les résultats. Le gynéco m'appelle en me disant j'aimerais vous rencontrer suite à vos résultats. Bon, ok, j'arrive à mon rendez-vous.
Donc toi, tu avais tous les résultats, mais lui les avait reçus en avant.
Lui les avait. Alors, un cariotype, les patients n'ont jamais les résultats. Parce qu'ils peuvent interpréter des choses, c'est confidentiel et même si c'est notre corps, c'est ce que je lui ai dit, ça reste notre corps. J'aimerais bien avoir les résultats. Il m'a dit non, c'est comme ça.
Ah ouais.
Okay. Donc on ne peut pas les avoir.
Ok.
Donc c'est lui qui les reçoit directement. Donc je vais au rendez-vous et il m'a annoncé tel quel, vous êtes trisomique sans lettre. Ok.
What?
D'accord. Va falloir m'expliquer. Donc là, c'est un peu le choc. Limite, on n'entend plus rien. On a juste entendu cette phrase. C'est tout ce que, c'est presque tout ce que je me rappelle de ce qu'il m'a dit. À part, faut aller consulter un généticien.
Ok.
Voilà, c'est tout. Donc, sur le coup, bah, je comprenais rien de ce qu'il me disait. Vous êtes trisomique sans l'être, ok. Bon, ça veut dire quoi? puis, trisomie, on pense tout de suite chromosome 21.
Ouais.
Donc, voilà, c'est un peu l'inconnu. Donc, il me conseille un généticien sur trois dans l'aube.
Mais il t'explique rien? Enfin, il te dit pas...
Il m'a rien expliqué. Il m'a juste dit, y a un problème avec vos chromosomes. Moi, je suis pas un spécialiste. Il faut voir un généticien. Bon, après, je préfère qu'il me dise qu'il y connaît rien et qu'il m'explique pas un truc.
Non, bien sûr. Enfin, t'aurais pu dans ce cas-là aller voir quelqu'un d'autre tout de suite, quoi.
Voilà. Bon, par contre, j'ai quand même regardé parce que j'avais un courrier, hein, quand même. Il m'a fait un courrier, donc avec les termes qu'il avait notés, j'ai quand même été voir un peu sur Internet. Donc, ouais. En fait, il s'avère que j'ai une translocation robertsonienne, c'est-à-dire c'est une mutation des gènes. Et moi, ça touche les chromosomes 14 et 15. En fait, voilà, ça touche une personne sur 20 000. Et ce qui est rigolo, c'est que j'habite une ville de 20 000 habitants environ. Donc, on se dit qu'en fait, on est un cas comme ça au milieu d'une ville qu'on habite. C'est assez, assez marrant. Donc voilà. Et en fait, je me suis quand même renseignée de ce que ça voulait dire tout ça. La translocation robertsonienne, en fait, ça s'appelle comme ça. Des chromosomes 14 et 15. En fait, c'est une mutation des gènes, des chromosomes. J'ai un chromosome 15 collé à un de mes chromosomes 14. Et en fait, au lieu d'avoir un karyotype de 23 paires de chromosomes comme la plupart des gens, j'ai un karyotype de 22 paires de chromosomes comme un trisomique. En fait, c'est ça qui m'expliquait maladroitement. C'est qu'en fait, un trisomique, une personne qui a une trisomie, quelle qu'elle soit, a 22 paires de chromosomes. Alors des fois parce qu'il manque un chromosome, des fois parce qu'ils sont collés à un autre. Donc moi c'est ce qu'on appelle une translocation robertsonienne avec un karyotype équilibré. C'est pour ça que je n'ai pas de maladie ou de trisomie apparente. C'est parce que je suis quelqu'un tout à fait normal par rapport à ça. Voilà, je sais pas trop comment m'exprimer sur le sujet, mais parce que je voudrais pas que ça soit mal interprété.
Non, mais tu es factuel quoi sur bien sûr. Ouais.
Mais voilà, en fait, mon karyotype est équilibré et apparemment c'est assez courant les mutations des gènes, faut le savoir. Il y a
pas
des personnes
vraiment voilà. Normal entre guillemets. Ouais.
Exactement. En fait, il y a des personnes qui ont des mutations de gènes mais qui ne le savent pas. Moi, malheureusement, je viens le découvrir parce que les chromosomes 14 et 15, à ce que la généticienne après que j'ai rencontré par la suite m'a expliqué, c'est qu'en fait, ça touche c'est les chromosomes de l'identité parentale.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Eh ben, en fait, ça veut dire que à chaque fois que je tombe enceinte, mon bébé soit est mal formé. Soit un karyotype qui n'est pas équilibré comme le mien, ce qui fait qu'en fait il y a plus d'activité cardiaque ou c'est parce qu'il est malade ou enfin voilà il peut avoir une trisomie etc. Donc ça peut engendrer beaucoup de choses.
Et tu vas forcément lui transmettre en fait donc ce problème sur ton karyotype ou ton autre chromosome de la paire peut lui transmettre ce dont il a besoin.
Alors non, pas du tout. Je peux. Alors déjà, faut savoir que je peux faire des enfants naturellement. Le seul, c'est la seule chose, c'est que je vais faire des fausses couches à répétition jusqu'à ce que j'ai un ovocyte, un ovule sain qui va, en s'accouplant avec mon conjoint, enfin le spermatozoïde de mon conjoint, donner un bébé qui va être soit porteur du gène, mais qui va avoir un karyotype équilibré comme moi, soit qui va être complètement sain, sans le gène.
Okay.
On peut avoir les deux cas. Après, il peut y avoir encore d'autres complications, mais on en parlera après. Mmh. Donc voilà, je peux avoir des enfants naturellement, qui peuvent être parce que ma mère ne connaissait pas ce problème, donc ouais. elle m'a eu, ma grand-mère aussi, elle a eu ses enfants, donc on peut en avoir naturellement, mm-hmm. mais voilà, il y a des gros risques de fausse couche avec ces deux paires de chromosomes.
Et lorsque j'ai fait ma troisième grossesse arrêtée, il s'est avéré que mon gynéco a voulu faire une aspiration pour pouvoir analyser ce qu'il y avait, voir s'il pouvait trouver quelque chose avant de faire le karyotype. Et finalement, quand j'ai reçu les résultats, il s'est avéré que aucun embryon n'avait pu être analysé, soi-disant qu'il ne l'avait pas trouvé. Donc, pourtant, le gynéco m'a bien dit qu'il l'avait aspiré, puisque j'ai été aspirée sous écho. Donc voilà, une aspiration qui n'a servi à rien. Et donc après, bah ça a été le karyotype.
Mmh. Question peut-être bête. Est-ce que c'est une maladie qui, du coup, si un homme était porteur de cette, enfin, je sais pas si on appelle ça une maladie d'ailleurs, mais cette mutation, est-ce que ça se transmettrait? Est-ce que ça aurait les mêmes conséquences sur voilà, si un homme avait été porteur de cette mutation, est-ce que ça aurait été difficile pour sa conjointe de porter?
Alors si. La généticienne m'a expliqué que les hommes étaient autant touchés que les femmes.
Ouais,
c'est d'ailleurs pourquoi elle a demandé. Faut le savoir aussi, quand on rencontre un généticien et qu'on a un problème génétique, on a obligation d'avertir sa famille. C'est une obligation.
Ah,
je
ne
le savais pas, mais c'est génétique, donc c'est obligatoire. Ensuite, donc je suis allée au rendez-vous avec la généticienne, avec ma mère. Donc elle a eu une prescription pour faire le karyotype, ainsi que mon père, pour voir lequel des deux était porteur. Donc bon, il s'avère que c'est ma mère qui est porteuse. Mmh. Et de ce fait, mon frère, le jour où il voudra faire des enfants, devra faire le karyotype également.
Ouais.
Voilà. D'accord. Et après, on a eu l'obligation d'avertir les frères et sœurs de ma mère, ainsi que ma grand-mère. Mon grand-père n'étant plus là, il est décédé. Bon, voilà, il n'y a plus besoin d'en parler. Mais ma grand-mère, bon, faire le test, ça serait ridicule parce qu'elle n'a pas l'intention de refaire des enfants. Hein. De toute façon, elle ne pourrait pas.
Bien sûr.
Mais par contre, les frères et sœurs de ma mère. S'ils le souhaitent, hein, après c'est un choix, peuvent faire le karyotype, hein, parce que après, si ça les touche, il faut que leurs enfants à eux fassent également le karyotype pour vérifier qu'ils n'ont pas le gène.
Donc en fait, c'est ça, on essaie de faire un peu une cartographie, un peu comme un arbre généalogique de ce gène, en fait, voir où est-ce qu'il est parti.
C'est ça. Ils partent de la personne la plus proche pour éviter de faire des karyotypes à toute la famille qui ne serviront à rien parce que c'est un coût quand même, faut le savoir. Mm-hmm. Donc ils partent comme ça du plus près pour remonter au plus loin.
Et pour revenir sur ta question, lorsque c'est l'homme qui est porteur de la mutation du gène, qui est porteur de la translocation robertsonienne. Effectivement, l'enfant peut également avoir des malformations, des syndromes différents que lorsque c'est la femme. Les syndromes sont pas les mêmes lorsque c'est l'homme ou la femme qui est porteur. Après, c'est ce que j'ai lu. Hein. Moi, la généticienne m'a dit que les syndromes, cette translocation était touchée autant les femmes que les hommes. Elle n'est pas rentrée dans les détails de tout ça, par contre, je me suis quand même renseignée. Et effectivement, les syndromes que l'enfant peut avoir derrière ne sont pas les mêmes. Après, bon, vous pouvez aller lire si ça vous intéresse. Je pourrais mettre un lien si vous le souhaitez, mais parce que là, on rentre vraiment dans le côté très technique de la génétique, donc voilà. Mais c'est des syndromes qui sont très lourds. Niveau retard mentaux, physique, etc. Donc trisomie 14 ou trisomie 15, pour les appeler plus familièrement. Et ensuite, il y a aussi des risques de dysomie uniparentale. La dysomie uniparentale, c'est lorsque l'enfant a une paire de chromosomes identiques à l'un des parents. Or, normalement, chaque personne normalement constituée a la moitié des chromosomes du père, la moitié du chromosome de la mère. Donc là, le fait d'avoir une paire de chromosomes identiques peut bien évidemment avoir de très lourdes conséquences sur le fœtus, quoi. Donc pas bon du tout. Donc la généticienne nous a très 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 vivement conseillé de faire une amniosynthèse, même si ce n'est jamais obligatoire, mais elle nous le recommande très fortement. Même si elle se veut rassurante en nous disant que ça ne touche que 0,2 ou 0,5% des cas, je crois, de mémoire, mais ce qui est ridicule, mais bon, ça laisse quand même un petit pourcentage. Et que ça, ils ne peuvent pas le voir, la dysomie uniparentale. Donc, quand ils font l'analyse de diagnostic préimplantatoire. Pour le moment, les techniques sont pas assez avancées, donc on est obligé de passer par la myosynthèse.
D'accord, ok. Et donc là, on est quoi ? On est début 2018, à peu près ?
Donc là, on est début 2018, effectivement. J'ai eu les résultats en avril. Mmh. Donc, on nous demande de voir un généticien de notre choix. Donc, moi, j'ai envoyé mon dossier à Paris. Mmh. Parce que... voilà, faut savoir que il n'y a pas beaucoup de centres en France qui s'occupent des FIV, ce qu'on appelle avec diagnostic préimplantatoire. Mmh. Il doit y avoir 4 ou 5 centres en France. C'est vraiment pas énorme.
Ah oui, d'accord.
Parce que c'est un protocole assez particulier. Mmh. Donc mon dossier a été accepté.
D'accord. Ah oui, parce que tu n'es pas sûre même d'être acceptée. Okay.
Non. Non, non. C'est sur dossier. C'est selon. Tout un tas de critères, en fait. Mmh. Donc.
Alors, je me permets de t'interrompre. On repart un tout petit peu en arrière. Juste, donc, la généticienne que tu avais rencontrée, c'est ce qu'elle t'a dit, quoi. Elle t'a dit, écoute, si tu veux pouvoir faire des enfants et donc éviter ces arrêts de grossesse pendant la grossesse, il va falloir faire un diagnostic préimplantatoire. Enfin, c'est ce qu'on t'a proposé comme solution ou comment ça s'est passé?
Exactement, elle m'a dit tout de suite qu'une FIV classique, ça ne servira à rien, clairement. Il faut absolument que les embryons soient triés. Que c'était recommandé. Elle m'a dit que je pouvais avoir des enfants, donc naturellement, ce que je savais déjà, hein, mais mm-hmm. que pour éviter tout un tas de fausses couches, il valait mieux passer par le diagnostic préimplantatoire. Ouais. Clairement. Après 3 grossesses arrêtées, ouais. J'en avais un peu marre.
Bah oui, non, mais c'est ça que j'allais te demander. Enfin, ça devait être. J'imagine que c'est un peu une claque. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Mais en même temps, c'est enfin mettre un mot sur ce qui se passe, quoi. Puis c'est en plus une histoire de famille aussi. J'imagine que ça a dû vous secouer un peu toutes.
Bah, disons que ça a pu mettre des explications sur les fausses couches et les grossesses arrêtées de ma mère et ma grand-mère, ce qui a, ouais. dans un sens, pu les soulager aussi, parce que on reste des femmes. Je pense que quand on perd un bébé, on se dit qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai porté, qu'il fallait pas, qu'est-ce que j'ai mangé, est-ce que j'ai assez bu, est-ce que j'ai pris. On se pose tout un tas de questions et c'est tout à fait légitime parce que je me suis mis énormément en cause à chaque fois. Donc, ouais. Je ne le savais pas. Mmh. Puis, il y a les réflexions des gens qui disent « Oui, mais t'es trop stressée, c'est de ta faute.
Oh, » On t'a dit ça ?
Oui, on m'a dit ça. Donc, effectivement, je suis quand même quelqu'un qui est assez anxieuse, mais c'est vrai que bon, quand on en perd un, quand on en perd deux...
Ne pas de fausse couche, quoi. Non, mais
donc,
quoi.
Oui, on m'a bien dit ça. C'était...
C'est dingue.
J'étais assez surprise. Forcément, après, bah, y a quand même une part de nous qui nous disent « Oui, c'est vrai, t'es peut-être trop stressée, c'est peut-être ça. »
Mais c'est ça, ben, tu culpabilises alors que c'est n'importe quoi.
Donc, bon, au bout de la troisième fois, et quand j'ai su mettre un mot dans ma tête, je me suis dit « Bah, vous voyez, en fait, c'était pas de ma faute, quoi. » Enfin,
je pense qu'il faut aussi se défaire de ce mot « faute ». Enfin, bon, bref, c'était un autre débat, mais le mot « faute », je trouve, c'est la faute de personne. C'est la nature, et puis c'est comme ça, mais... Bref, voilà, ça m'énerve.
On est d'accord. Hein. Surtout qu'en plus, quand on tombe enceinte, quand on en a déjà fait une, la deuxième, on fait beaucoup plus attention. Donc on se dit, bon, là, clairement, je pense pas avoir fait quelque chose. Voilà. Donc, au final, je sais que c'était pas moi. Surtout qu'en plus, j'ai eu des cas différents parce que la première, j'étais au chômage. Donc. Je n'avais pas une activité physique intense. La deuxième, j'étais en bureau, donc j'étais assise, ça allait. Ouais. Bon, la troisième, j'étais sur la route.
parce que je suis quand même commerciale, donc je fais beaucoup de routes, donc voilà, c'était encore un autre. J'ai pas eu les mêmes, et à chaque fois je les ai perdus, donc de toute façon, ce qui prouve bien que.
De toute manière, il n'y a pas de recette.
Il n'y a pas de recette miracle.
Bien sûr.
Donc voilà.
D'accord. Donc là, du coup, donc tu, ton dossier donc est accepté à Paris.
Voilà.
Tu te tournes vers tout ça. Et du coup, ça veut dire quoi? Parce que tu habites en Bourgogne, que tu dois, concrètement, tu vas devoir aller beaucoup à Paris avec, avec ton conjoint.
Oh, wow, donc, on a fait, on a eu une journée en novembre 2018 où on a rencontré à nouveau la généticienne, le gynéco qui allait nous suivre, puis d'autres personnes de l'équipe. Mmh. Où on a pu alors il y avait plusieurs couples au départ ensemble dans une salle où on nous montre une vidéo, on nous explique quelles techniques ils emploient pour vérifier les chromosomes touchés. Alors c'est des petits lasers verts et rouges pour vérifier qu'ils sont bien là, etc. Nous montrer comment ils trient les embryons. Enfin bref, il nous explique vraiment tout le déroulé du diagnostic implantatoire. Et puis après, on a chaque couple un entretien individuel avec les médecins. Où là, ils vont nous dire, faut arrêter de fumer, faut perdre du poids ou en prendre, ou vous allez commencer à peu près à telle date, la FIV. Enfin, voilà, ils nous classent. C'est une sorte de classement, bizarrement. C'est un tri, ils nous posent des questions sur nos habitudes, etc. Voilà, c'est vraiment un entretien. Individuel et en couple, obligatoirement en couple.
D'accord.
Le conjoint doit être là.
D'accord, ok.
On fait des prises de sang aussi ce jour-là.
Comment se passe cet entretien? Comment est-ce que vous vivez ça?
On s'est dit ça y est, ça commence. Enfin, je veux dire,
on y va quoi.
On y va, ça y est, c'est le premier. Ouais. Voilà, on est deux, c'est le début, quoi.
Content, c'est bon, quoi. Maintenant, on y va, quoi. Ouais.
Voilà, c'est bon. J'ai un conjoint en plus qui est pas très patient. Il a fallu attendre un long moment avant d'être reçu, donc ça a été tout un truc. mais bon, il a passé le cap de la journée, c'était bien.
C'est bien, bon, bah, super.
Donc voilà, donc après, ils nous disent, dans 3 mois à peu près, on vous recontacte. Pour rencontrer les médecins pour lancer le protocole. Donc, ça, c'était en novembre.
Les 3 mois?
Et ben, en fait, c'est un délai. Ils ont des délais comme ça, donc ça prend plusieurs mois. Mmh. Voilà. Je ne sais pas pourquoi.
D'accord.
On a attendu à peu près 3 mois.
OK.
Donc, voilà. On a été reçus. Alors, au départ, à l'entretien individuel, on nous avait dit on commencera à peu près en janvier. On vous appellera. Finalement, on nous a appelé au mois de février pour nous donner un rendez-vous où là, j'ai pu y aller toute seule en fait, parce que le conjoint n'est pas obligé d'être là à tous les rendez-vous.
Donc, okay.
J'y suis allée. On m'a donné le protocole. Donc on m'explique qu'on va me faire reprendre la pilule pour gérer mon cycle.
Mm-hmm.
Donc, je me vais repartir prendre la pilule et puis commencer les traitements à telle date. Donc, ménopure, cétrotide, on me prescrit aussi de l'ovitrel, on me prescrit une ordonnance qui fait exactement 3 pages à 4.
Wow.
De la vitamine D en ampoule, de l'acide folique, du spasfon, des bas de contention, enfin tout un tas de
trucs. T'as tout, quoi.
Tout. Et puis vient la date, Alors par contre, l'hôpital de Paris, je ne sais, tous les hôpitaux ne le font pas, mais ça, je trouve ça top. Ils font une application, ils sont en association avec une application qui s'appelle WeSteam, qui est quand même assez géniale, parce que ils mettent tous les protocoles, les doses qu'on doit prendre au jour le jour sur cette appli, les rendez-vous. C'est très ludique et super bien pour tout suivre.
D'accord.
Voilà. Ça, c'est top. Et puis vient le premier jour où on va faire à Paris l'échographie et la prise de sang pour commencer le traitement le lendemain. Donc, il faut être à Paris, à l'hôpital, entre 7h et 8h30 le matin.
Mm-hmm.
Donc, avec les bouchons sur Paris, c'est top. Il faut partir très tôt.
Ouais. faut arriver la veille, autrement, ouais, c'est pas facile.
Ouais, donc j'ai fait la première fois comme ça. Après, je dormais à l'hôtel parce que c'est trop fatigant. Parce qu'il faut savoir que l'hôpital n'arrête pas. Et donc, il faut aller travailler derrière.
Mmh. Faisant de la route. Quel hôpital d'ailleurs à Paris ?
Alors, je suis suivie à l'hôpital Antoine Béclair à Clamart.
Mmh, d'accord.
Qui est l'hôpital qui a fait le premier bébé éprouvette, je crois, en France, si je ne me trompe pas.
D'accord. Ok.
Donc voilà. Et c'est un des 4 ou 5 centres en France qui font le diagnostic préimplantatoire.
D'accord.
Donc après, bon, c'est vraiment très loin de chez moi et de toute façon, c'était pas faisable. Donc voilà. Donc Clamart.
Ok.
Et donc, bah, on commence le protocole. Tout se passe bien, je réagis très bien aux produits, très bonne réserve ovarienne, bon voilà, vient la ponction, nickel.
Mais du coup, toi, tu dois venir quoi tous les 2-3 jours pour faire toutes les échographies
Alors,
vérifier que tu réagis bien au traitement ou tu peux faire ce suivi échographique à côté de chez toi?
Alors non, c'est à l'hôpital à Paris. Donc en fait, on nous dit au départ, oui, c'est tous les 2 jours. Donc en fait, non, c'est pas vraiment tous les 2 jours. En fait, le traitement m'a été fait sur 15 jours. Donc un exemple, on commence le vendredi, donc à aller faire première écho, première prise de sang. Et en général, ils font commencer le traitement le lendemain. Après, on y retourne le vendredi d'après faire la prochaine écho et prise de sang. Donc déjà, il y a un délai d'une semaine entre les 2 premières échos et prises de sang. Donc ça reste gérable. Et c'est seulement la semaine suivante où là, on va y aller. Par exemple, si j'y suis allée le vendredi, il faudrait que j'y retourne le lundi, le mercredi, par exemple, pour faire la ponction en fin de semaine d'après, quoi. Donc, il y a une semaine où on va y aller 3 fois dans la semaine et voilà, les 2 semaines précédentes, c'est une fois par semaine.
D'accord.
Donc, okay. Je m'attendais vraiment tous les 2 jours à y être et en fait, pas du tout. Donc, faut pas prendre peur par rapport à ça parce que c'est pas vraiment tous les 2 jours.
Ok.
Donc, parce que ça m'angoissait avec mon travail, ça.
Ben, j'imagine, ouais.
Donc voilà, donc on a fait la ponction ovarienne. Je l'ai préférée sous anesthésie générale. J'avais trop peur d'avoir mal. Ouais, ils nous laissent le choix. Donc,
super.
Donc voilà, puis je regrette pas du tout. Je veux dire, on est endormi très peu de temps. J'ai pas eu de douleur, rien, vraiment rien du tout. On sort de la salle comme si de rien n'était. Hein.
C'est,
ouais, moi j'ai très bien vécu la ponction, donc c'était top. Donc ensuite, on nous dit que on a récolté 15 ovocytes. Qui est très bien.
Waouh, ouais.
Sur les 15, ils en ont mis 13 en ICSI. Donc, comme Flavie sur le précédent podcast l'expliquait, donc on va injecter le spermatozoïde dans l'ovule. Voilà. Donc, j'ai 13 beaux embryons.
Ok.
Au final. Et puis, on nous annonce ce jour-là. Que finalement, le transfert ne sera pas derrière, il se fera au mois de septembre. On est quand même en avril.
Ah bon ? Comment ça se fait ?
Mais oui. Alors, on nous explique qu'il y a trop de demandes.
C'est pas vrai.
Si, si. Alors qu'au départ, c'était censé. On nous avait dit que c'est 5 jours après, à peu près. Voilà, parce que, en fait, avec le diagnostic préimplantatoire, il faut savoir que les spermatozoïdes sont mis dans les ovules. Ils doivent attendre entre 3 et 4 jours pour réussir à faire le diagnostic préimplantatoire parce qu'ils ne peuvent pas le faire dès le départ. Il faut attendre que l'embryon mature. Et donc, ils implantent, ils font les transferts embryonnaires environ à 5 jours. Donc, voilà. Donc moi, ils m'annoncent que les 13 embryons vont être congelés tout de suite. Donc, je ne sais pas s'ils sont sains, s'ils sont pas sains, parce que ils sont congelés directement. Non, je l'ai pas su tout de suite. Enfin, on l'a pas su tout de suite. Mm-hmm. Et on nous annonce que le transfert sera pas fait avant le mois de septembre parce qu'il y a trop de demandes, il y a des listes d'attente, etc.
Wow. Ok. Bon, comment vous vivez tout ça ?
Très mal, très très mal, parce que nous, on s'attendait à ce qu'on nous avait dit au départ, un transfert après 5 jours après la ponction, et là. C'est une claque d'enfer. On est retombé de 10 étages.
Mmh.
Donc, voilà. Et puis, on m'appelle.
Donc, suite à la ponction qui a été faite au mois d'avril 2019, on nous avait dit qu'on serait sur la série pour le transfert au mois de juillet. Donc, nous, au départ, on s'attendait à le faire dans les 5 jours qui suivaient et au final, non. Donc, on était déjà déçus. Et puis, courant mai, en fait, j'ai reçu un courrier nous donnant rendez-vous pour fin juin. Donc, clairement, pour commencer un protocole pour un transfert pour le mois de juillet, c'était un peu court. Donc, je savais pas trop en quoi consistait ce rendez-vous. Donc, j'ai appelé l'hôpital et ils m'ont dit que finalement, ça serait un transfert au mois de fin août-septembre. Donc, on a râlé. Clairement, on n'était vraiment pas contents. Mais bon, on n'a pas le choix. Donc, au départ, pour ce rendez-vous, on m'a un peu mené en bateau en me disant que c'était pour faire des vérifications suite à la ponction du mois d'avril. Mais bon, pour moi, si la ponction a eu lieu début avril, faire une vérification fin juin, enfin, je voyais pas trop l'intérêt. Donc, bref. Et puis, en fait, je comprenais très bien dans le discours qu'il y avait beaucoup de monde. Donc, bon, on prend un peu sur soi, même si on est en colère, on n'est pas très content. Mais bon, on fait avec. Et puis, donc j'ai râlé. Donc, comme quoi, ça a bien servi. L'après-midi même, je reçois à nouveau un appel de l'hôpital me disant que finalement, on nous met sur la série du mois de juillet parce que un couple s'est désisté. Donc, à nouveau très content. Et donc, on me donne vraiment tout fin mai. Donc, fin mai, début juin, un rendez-vous pour... repartir sur un protocole bien particulier pour repréparer le corps à recevoir le transfert, parce que c'est pas la même préparation que lorsqu'on fait une stimulation ovarienne. Et nous voilà partis pour le transfert qui a suivi le 2 juillet.
Donc, super, je fais donc mon transfert embryonnaire. On fait le test de grossesse. J'ai fait un test de grossesse avant, hein. Test basique. Qui s'est avéré légèrement coloré au bout d'une semaine.
Ok. Donc, mais c'était un peu tôt.
Ouais, mais j'ai eu le transfert à J5. L'embryon avait 5 jours. Donc je me suis dit, bon, si c'est un embryon, déjà, quand on fait un bébé sous la couette, il met au moins 5 jours à arriver jusqu'à l'endomètre. Puis après, le temps de s'implanter, ça faisait à peu près 15 jours sur une grossesse normale. Donc je me suis dit, bon, ça fait à peu près. Je vais tester quand même. Donc, j'ai fait un test. Il était légèrement coloré. Donc, je me suis dit, bon, c'est peut-être bon signe. En même temps, je ne m'alarmais pas parce que vu que je prenais de l'œstre... Alors, qu'est-ce qu'il me donnait comme hormone à côté? Parce qu'on a des ovules à mettre...
La progestérone.
C'était de la progestérone en ovule et j'avais également de l'œstradiol, je crois, en plus, par comprimé. D'accord. Et donc, je me suis dit, bon, ça peut fausser. Donc, j'ai quand même... Je m'emballais pas non plus, quoi. Donc, j'ai fait le test donc sanguin qui s'est avéré positif. Donc, première FIV, ça fonctionne.
Ah, chouette. Donc, et d'ailleurs, je t'ai pas demandé, tu avais combien, du coup, d'embryons, du coup, qui étaient sains?
Alors, sur les 13 qui ont été congelés... au final, il y en a 11 qui étaient... Non, même pas. Je raconte des bêtises. Sur les 13, il y en a 11 qui ont été congelés. Je vous ai raconté une bêtise. Sur les 11 qui ont été congelés, il y en a un qui est mort tout de suite à la décongélation. Et sur les 10 qui restaient, au final, j'en avais un seul de bon.
Ah, waouh, ok.
Donc, l'hôpital, quand j'y suis allée, était plutôt déçu pour nous parce que, au départ, c'était quand même... une belle récolte.
Oui, bien sûr.
En fait, j'avais 15 ovocytes, il y en a 13 qui ont été mis en ICSI, sur les 13, il y en a 11 qui ont été congelés, sur les 11, donc voilà, il y en a un qui n'a pas survécu à la décongélation, et un seul de bon sur les 10. Donc, mon premier transfert fonctionne, on est content.
Ouais.
Là, tout l'entourage nous dit ça y est, c'est bon, c'est génial, tu vois, on savait, ça va tenir cette fois-ci. Donc là, on se dit bon, c'est bon, ça a été fait par des médecins, l'embryon est sain, enfin, en tout cas, est un embryon qui va se développer, nickel, génial. Et puis, faut savoir qu'on a une prise de sang à faire, mais on en a encore 3 autres derrière.
Ah ouais.
Donc,
lesquelles alors?
Eh ben, pour vérifier que le taux augmente bien, etc. Donc, on en a eu.
Ah oui, d'accord.
Alors, je me souviens plus parce que ça date de l'année dernière, mais on en a eu une, donc, 10 ou 13 jours, je crois, après le transfert. Après, il y en a une autre à faire, donc 48 heures après. Et puis après, il y en a une autre à faire 6 jours encore après. Sauf que moi, j'en avais une supplémentaire pour je ne sais plus quelle raison. Je ne sais plus pourquoi. Mon médecin m'avait demandé d'en faire une de plus. Donc, voilà. Bref.
Okay.
Donc, la première, nickel. La deuxième augmente double, mais à vraiment très serré, quoi. Donc là, je me dis, ouais, il y a un problème.
D'accord.
Ça a presque doublé, mais pas totalement. Donc là, ça commence à m'inquiéter un peu. Et puis, vient la troisième. Et là, le taux est bas. Donc,
oh, merde.
Ce qui veut dire que le bébé n'a pas tenu.
D'accord.
Donc, là, les pleurs, hein, clairement. C'est pareil, c'est une grosse claque parce que on se dit que la médecine est là pour nous aider et puis on y croit et au final ça tient pas, donc on est déçus.
Bien sûr.
Et le pire c'est que je l'ai senti encore, je savais
t'as senti les symptômes de grossesse, ça me disait.
Première semaine, je sentais que ça, les nausées, la fatigue, le mal au sein. Semaine d'après, il y avait plus rien, quoi.
Ah ouais.
J'arrivais à tenir la journée sans m'endormir, j'avais de l'appétit, je le savais. Et en plus, ce qui s'est passé, c'est surtout que j'ai fait le transfert, donc mon médecin m'avait arrêté jusqu'au transfert, et puis après j'ai repris le travail, et en fait j'ai perdu du sang. Donc, j'ai été en catastrophe voir mon médecin qui m'a dit ça arrive, vous inquiétez pas, c'est normal. Ouais, ok. Mais je lui dis, mais vous savez, les trois premières, j'ai jamais perdu de sang, pas une goutte, quoi. Elle me dit, oui, mais ça peut arriver. Puis forcément, ma cousine dont je suis très proche me dit, oui, mais regarde, les autres, ça a pas tenu, t'avais pas perdu de sang. Là, t'as perdu du sang, peut-être que c'est la bonne. Donc, on essaye de se convaincre en se disant, ok. Et puis, mon médecin était... Je viens parce que j'ai perdu du sang la journée. Elle me renvoie à bosser, quoi. Elle m'arrête pas. Donc, j'ai été obligée de lui dire, mais la route, quoi. Enfin, parce que je fais entre 200 et 600 kilomètres par jour, selon les jours. Elle me dit, elle me demandait aujourd'hui et demain, le lendemain et le surlendemain où j'étais, et donc j'étais loin de chez moi, donc elle m'a arrêté 2 jours. Puis le vendredi, j'étais pas très loin, donc elle m'a laissé aller travailler, quoi.
Voilà.
Et bref, j'ai un ami qui est médecin à côté de ça, qui lui a trouvé ça, a trouvé que c'était n'importe quoi, donc lui m'a prolongé mon arrêt maladie.
Ok.
Donc voilà, et puis j'ai quand même vu mon gynéco le lendemain, qui lui. Avec lui, ça s'est mal passé.
Ah merde, qu'est-ce qui s'est passé?
Il s'est avéré qu'il m'a fait une écho. Il me dit, écoutez, je vois un truc, hein, mais parce qu'il est assez comme ça, hein, assez brut, quoi. Ouais. Et puis,
qui pensait que les fausses couches ne pouvaient pas être héréditaires.
Voilà, exactement. Ouais. Et il me dit, y a un truc, mais on voit un petit poids, mais. Et il me dit, je vois rien d'autre, c'est trop petit. Il me dit, puis de toute façon, tu le perds. Hein. Il me dit, je peux rien faire. Hein, qui me dit. Ok, génial. Ouais. Donc, je me suis pas du tout sentie écoutée. En plus, je lui dis, j'ai perdu du sang hier. Il me dit, mais non, t'as pas de sang. Donc, c'est pas vrai. donc, voilà. En gros, je n'ai pas été écoutée par mon médecin traitant. Je n'ai pas été écoutée non plus par mon gynéco. Donc, quand je l'ai perdu, je suis retournée voir mon gynéco pour vérifier qu'il y avait l'embryon ou pas. Il me dit, il n'y a plus rien, t'as dû le perdre. Je lui dis, écoutez, j'ai rien perdu, j'ai pas saigné. Donc, il me dit, t'as dû le perdre comme ça. Ok. Je lui dis, c'est bizarre, mais bon. Et je lui ai quand même dit, comme quoi, j'avais pas trouvé notre dernier rendez-vous top parce que je me suis pas sentie du tout écoutée. Alors, ça l'a vexé.
C'est le moindre de tes problèmes qu'il soit vexé.
Bah, ça l'avait été parce qu'il m'avait pris sans rendez-vous et puis voilà. Enfin, donc c'est ce que je lui ai dit, mais vous pouviez pas me recevoir. J'allais à l'hôpital en fait. Et c'est juste vous qui me suivez. Vous êtes le spécialiste à qui je fais confiance. Donc voilà, j'ai été très claire avec lui. Bon, au final, il m'en a remercié quand même. Faut le savoir. Ouais.
Très bien.
Parce que il me dit, c'est la première fois qu'on me dit ça. Bah, j'ai dit oui, mais si personne vous le dit, en même temps, vous pouvez pas vous remettre en question non plus, quoi. Je dis, bah oui, je lui dis, c'est ce que je lui ai dit. Vous comprenez bien que nous, on est stressés. Donc, on vous demande pas de nous mentir parce que c'est pas ce qu'on veut non plus. Mais il y a une façon, il y a quand même une façon de dire les choses, enfin, un minimum. Quand on te sort, bah, tu le perds, tu le gardes. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bah, excuse-moi, mais enfin, il y a un minimum. Donc, bref, voilà. Donc, ça s'est terminé comme ça. Et puis, au final, il s'avère que j'avais pas du tout perdu mon embryon parce que je l'ai perdu dans ma douche à peu près 3-4 jours après.
Ah ouais.
Donc, j'ai tout perdu dans la douche. Bon, par contre, l'hépatitothèque, comme les trois premières fois, c'est parti naturellement. Donc, nickel. Ouais.
Un petit peu moins douloureux physiquement, en tout cas.
Ah oui, beaucoup moins qu'avec les comprimés, hein, clairement. J'ai absolument pas eu mal au ventre, rien du tout. Hein. C'est juste en montant dans ma douche, bah, tout est parti, mais je veux dire, vraiment aucun mal de ventre. Hein.
Ouais. Bon.
Donc ça s'est fait naturellement. Okay. Et donc, je m'attendais à avoir des nouvelles de l'hôpital derrière, hein, quand même, parce qu'ils nous demandent des prises de sang, c'est pour vérifier que tout va bien. Là, ça se passait pas bien, donc clairement, je pensais avoir un appel. J'ai rien eu. Donc, je me suis dit, bon, bah, ils sont peut-être en vacances. On était fin juillet. Je me suis dit, bon, les hôpitaux ferment. Moi, je vais attendre à la rentrée. On verra bien. Mm-hmm. Puis, pas de nouvelles. Donc, bah, j'ai repris le travail. Et puis, je me suis permise d'appeler. Mm-hmm. Et on me dit qu'on a essayé de me joindre. Je dis, écoutez, j'ai jamais eu d'appel de votre part.
Ouais.
Ah mais si, on n'a peut-être pas le bon numéro ou je sais pas, il y a eu un problème. J'ai dit oui, mais vous avez mon adresse mail quand même. Enfin, je sais pas.
Ils t'envoient des courriers aussi quand ils ont besoin de te convoquer.
Bah, oui. Alors donc bon bref, en fait, clairement, c'était je pense une façon détournée, voilà, de faire passer la pilule, mais clairement, en fait, il y a pas de suivi. Hein. Pour moi, il y a pas eu de suivi.
C'est dingue.
Heureusement que je savais ce que ça voulait dire, hein, le taux bas sur mon résultat, parce que quelqu'un qui ne sait pas, clairement, bah, on continue notre vie, quoi. Enfin.
Ben ouais.
Donc.
C'est dingue. C'est complètement dingue.
Ouais, en fait, c'est ça, en fait, qui est mal vécu derrière, c'est surtout le fait de se dire qu'en fait on a été un numéro, on te fait ton transfert, puis après bon bah tu te débrouilles quoi. En gros, c'est un peu, moi je l'ai vécu comme ça, hein, clairement.
Ouais, bien sûr.
Je pensais justement qu'il allait avoir quand même un côté humain, etc. Parce que bon bah quand on y va, bizarrement, bah, ils sont super humains, ils discutent, ils sont très à l'écoute et tout. Mais au final, une fois qu'on est sorti de l'hôpital, il y a plus rien quoi. C'est, je me suis pas du tout sentie épaulée quoi. Mais, par aucun professionnel de santé que j'ai vu autour de cette FIV, hein, après. Hein. Donc, donc voilà, un peu seul au monde, quoi. Ouais. Avec mon conjoint.
Donc là, du coup, t'es quoi? T'es septembre 2019, c'est ça?
C'est ça. Il y a quelques mois. Et puis, quand on a fait le transfert, on nous avait bien dit que, ben, clairement, au vu des demandes, il n'y aurait pas de nouvelles tentatives avant le début d'année.
Oh.
Donc, bah, on s'est dit, en plus, si c'est comme la dernière fois où on fait une simulation puis qu'on est, on a le transfert 4 mois derrière, bon, bah, je m'attendais à ce que ce soit autour du mois de mars, avril, enfin voilà.
Mm-hmm.
Et puis finalement, on m'a appelé au mois de décembre.
Ok.
Donc, ils ont bien tenu leurs engagements à ce niveau-là. Donc, on m'a appelé au mois de décembre pour me demander si on était toujours OK. Alors, bien évidemment, oui. Donc, on m'a donné les protocoles par téléphone. On ne m'a pas fait venir cette fois-ci.
Bien.
Parce que, bah, voilà, ils avaient déjà tous les examens, etc., sur place, parce qu'ils avaient été faits il y a moins d'un an.
D'accord.
Donc, rien besoin de refaire, à part m'envoyer l'ordonnance qu'ils ont fait par mail pour commander mes produits. et commencé mon protocole. Donc, en fait, le protocole commence par la reprise de pilule sur le cycle du mois de décembre.
Mmh.
Et puis, on me demande de l'arrêter pour le 5 janvier.
Ok.
Donc, voilà. Et puis, j'ai fait ma première prise de sang, ma première écho vendredi dernier.
Ok.
Le 10. Et première piqûre de ménopure le 11. Donc, samedi.
D'accord. Et oui, aujourd'hui, où on se parle, on est mi-janvier. D'accord.
Voilà, mi-janvier.
J'étais en plein dedans.
Je suis en plein dedans.
Est-ce que vous avez envisagé à un moment de regarder un autre centre de PMA qui fasse des diagnostics pré-implantatoires, pardon, où il y en a tellement peu que finalement tu penses que les délais seront similaires un peu partout ?
Bah, les délais seront les mêmes. Et puis de toute façon, c'est Montpellier, Strasbourg, c'est à l'opposé de là où on habite.
D'accord, donc c'est le seul qui est vraiment accessible. Et encore,
c'est infaisable pour nous, quoi.
D'accord.
Donc, puis en fait, ils s'y connaissent. Je veux dire, là-dessus, j'ai aucun problème.
Ouais,
c'est plus le suivi du après qui m'a dérangé. Par contre, la journée, on a une question, on envoie un mail, ils répondent dans la journée. Enfin, je veux dire,
ça c'est chouette.
Ça là-dessus, j'ai absolument rien à reprocher. C'est juste qu'en fait, on s'aperçoit que ben voilà, il y a tellement de monde que pas forcément le temps de nous épauler comme on aurait besoin dans ces cas-là. Alors peut-être que nos patientes, on est demandeuses de ce genre de choses parce que pour nous c'est un gros problème. Peut-être que à force d'en voir, je sais pas, ils minimisent le besoin des gens. Je sais pas trop en fait.
Ouais. Non, c'est dingue. Bon, et alors, du coup, justement, là-dessus, est-ce que toi et ton conjoint, peut-être, vous vous êtes fait accompagner, peut-être psychologiquement, sur ce chemin depuis le début ou pas du tout ?
Pas du tout.
Vous n'avez pas eu besoin, peut-être ou...
Non, parce que nous, on en parle ouvertement entre nous. Bon, mon conjoint est un peu moins ouvert. Enfin, il en parle moins spontanément que moi, clairement.
Ouais, c'est souvent le cas. Hein.
Ouais. Par contre, me dire qu'il en a marre, qu'il a envie de les appeler pour les gronder, ça il est très fort, mais bon, par contre, voilà, il en parle pas trop. À part me dire voilà qu'il est pressé, qu'il est content que ça commence, qu'il espère que ça va marcher. Bon, voilà, c'est
bien sûr.
Je pense qu'un homme le vit différemment encore.
Ouais, non, c'est clair. Et j'avais une question du coup sur la gestion de ton travail. T'as un boss super cool ou parce que du coup, enfin même toi comme ton conjoint d'ailleurs, comment est-ce que, enfin pouvoir prendre une demi-journée pour venir faire les examens très régulièrement du coup. Bon, alors après vos cycles ont été un peu espacés, mais comment ça s'est passé toi au niveau de la gestion du travail?
Alors à l'époque en 2017 quand j'ai perdu le troisième, j'étais déjà dans l'entreprise actuelle où je suis. J'avais un chef, le chef de mon chef qui avait je pense, enfin qui a eu les mêmes des soucis identiques, et je pense qu'il était très humain là-dessus, donc il a été très très compréhensif. Donc déjà ça aide, je pense. J'ai été beaucoup entourée par les gens avec qui je travaillais, que ce soit mon chef ou donc son supérieur, et donc ça c'est top. Après faut savoir que il existe une loi, quand même. Il faut le préciser parce que j'étais pas du tout au courant au départ. C'est une amie qui a fait une FIF qui m'en avait parlé. Il existe une loi qui dit que quand on fait une fécondation in vitro, normalement, tout examen ou toute absence doit être rémunéré par son employeur.
Ah ouais.
Donc voilà, donc en fait, je leur laisse pas vraiment le choix.
Non, mais c'est vachement bien que la loi te protège là-dessus, ça c'est sûr.
C'est top. Mmh. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment bien parce que, voilà, je suis à 1h30 du centre où je dois aller. Il y en a, ils viennent de 4 ou 5 heures plus loin. Je veux dire, donc, en tout cas pour un diagnostic préimplantatoire. Donc, je veux dire, pour s'organiser, c'est très compliqué, très très compliqué. Ben, encore, je me dis que quand on est dans un bureau, bon, on s'absente, on revient au bureau, c'est un endroit fixe. Moi, je suis itinérante et j'ai 8 départements aujourd'hui à gérer. Donc au sein de mon travail, quand je dois être dans le Cher ou dans le Loir-et-Cher, qui sont à 3 heures de chez moi, 2h30, 3 heures de chez moi, si c'est pas plus, là c'est très compliqué à gérer. Clairement, c'est très compliqué à gérer.
J'imagine. Et toujours sur ces aspects logistiques, est-ce que il y a des aides pour t'aider sur le coût en fait de tous ces déplacements, voilà, pour te rendre régulièrement à Paris. Je veux dire le prix de l'essence quand tu dois y être à 7h du matin et que tu dois dormir à Paris. Comment ça se passe?
Non, je pense pas. Franchement, j'en sais rien du tout. Clairement, je m'organise moi de mon côté, je prévois, mais. Non, on m'a jamais proposé d'aide ou quoi que ce soit. Ou si ça existe, qu'on me le dise.
Oui, ouais, bien sûr. Ouais.
Mais non, parce qu'ils estiment que en fait, tu pars de chez toi et puis tu es censé pouvoir aller travailler derrière, quoi. Donc non, je pense que non, en fait. Je pense pas que ça doit exister, ces aides-là.
D'accord. Bon. Très bien. Écoute, on approche la fin de l'épisode. Est-ce que tu aurais un conseil à partager avec, je sais pas, un couple qui passerait par un parcours similaire?
Bah déjà, n'écoutez qu'eux sur ce dont ils ont besoin pour gérer le problème qu'ils rencontrent. Qu'ils écoutent. Aussi leur corps, surtout les femmes. Voilà, si y a un mal quelque part au dos ou quoi que ce soit, surtout bien s'écouter, parce que les maux de dos aussi, ça peut être beaucoup le stress. Donc, parfois, ça peut aider d'aller voir un ostéopathe ou de faire un peu de relaxation, parce que clairement, ça détend. Faire de la piscine aussi, c'est pour se relaxer, c'est bien.
Ok.
Et puis surtout, garder le moral, parce que on est beaucoup dans ce cas et on sait ce que c'est. Donc, je compatis vraiment avec tous ceux qui passent par là. Et en espérant que tout le monde ait un beau bébé à un moment donné.
Bah ouais, c'est tout ce qu'on vous souhaite.
Bah oui. Après, bon, il y a suite à ça. Après, il y aura d'autres. Il y a d'autres possibilités. Hein. On s'arrête pas qu'à la FIV si on dépasse nos chances, mais voilà.
C'est clair. Bon, eh ben écoute, en tout cas, on vous souhaite, donc là, tu es en plein dans un nouveau cycle, donc on te souhaite que ça marche, quoi, et que ça marche sans trop de douleur et que ça se passe bien. On aura plaisir à suivre la suite de ton essai.
Moi, j'espère juste là qu'il y ait des embryons sains. C'est tout ce que je demande, en fait.
Bah ouais, non, mais écoute, c'est tout ce qu'on te met. Ils peuvent t'en mettre, si t'en avais plus que un de sein cette fois-ci, ils peuvent t'en mettre plus qu'un, ils peuvent t'en implanter plus qu'un.
Ils nous ont demandé, nous on souhaiterait en mettre deux.
D'accord, ok.
Déjà parce que ça donne plus de chance à l'un des deux. Enfin, quand on en implante deux, ça donne plus de chance que ça fonctionne. Mmh. Et puis parce que j'ai un conjoint qui aimerait trop des jumeaux.
Ah, c'est mignon les petits jumeaux.
Ouais. C'est beaucoup de travail.
Ouais, je pense que c'est, je pense effectivement que c'est énormément de travail, mais c'est vraiment super chouette aussi. Okay. Et ben écoute, Charlotte, je te dis un immense merci en tout cas de t'être confiée à mon micro et de nous avoir raconté ton histoire. C'est vrai que c'est aussi intéressant de voir la PMA comme plus un moyen de prévention que pour réparer entre guillemets quelque chose et puis voilà, on te souhaite vraiment du fond du cœur à toi et ton conjoint un beau bébé ou peut-être des jumeaux du coup.
Je vous dirai. Merci de m'avoir écouté en espérant que ça soit pas trop décousu et puis merci d'avoir donné la parole à ceux qui passent par là, parce que il faut qu'on en parle. Je pense qu'on n'en parle pas assez encore aujourd'hui.
Non, c'est clair. C'est clair.
Donc, merci à toi.
Un grand merci, Charlotte. Bonne journée.
Merci, au revoir.
Et voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode de Alors c'est pour bientôt, le podcast. J'espère qu'il vous a plu. Retrouvez un nouvel épisode tous les mercredis sur toutes les plateformes de podcast. En attendant, si vous souhaitez plus d'informations sur le podcast et mes invités, direction le compte Instagram Alors c'est pour bientôt podcast ou sur le site internet alorscestpourbientotpodcast.com. Si cet épisode vous a plu, rendez-vous sur Apple Podcast pour me le dire avec plein d'étoiles et un commentaire. C'est le meilleur moyen de m'aider et de permettre au podcast de trouver d'autres auditeurs que le podcast pourrait intéresser. Si vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas à m'écrire directement sur Instagram. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à mercredi.
Salut, c'est Alexis Buisson. Je suis journaliste correspondant à New York pour plusieurs médias français et je travaille au sein de la rédaction de French Morning depuis 2007. À French Morning, j'aime vous raconter des histoires qui vont vous faire parler et réfléchir. Ces derniers mois, j'ai écrit sur les difficultés que rencontrent les migrants africains francophones à New York, la redécouverte par les Américains du compositeur français oublié, Joseph Bologne, ou encore l'avenir du français dans les universités américaines. Si vous souhaitez soutenir mon travail ainsi que celui de mes collègues, rendez-vous sur frenchmorning.com pour vous abonner.